Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Nous retrouvons notre invité Romain Caillet, historien spécialiste de la mouvance djihadiste contemporaine. Vous publiez avec Pierre Puchot, Romain Caillet, Le combat vous a été prescrit, une histoire du djihad en France. Je vous propose de commencer par la fin de cette histoire, autrement dit par le procès Merah, le procès du frère de Mohamed Merah, Abdelkader. La réclusion criminelle à perpétuité a été requise contre lui. Ce procès donne une image de ce qu'a été le djihad en France, de ce qu'a été la nébuleuse djihadiste, son imbrication notamment avec la sphère familiale. Quel regard portez-vous sur ce qui a été dit sur Abdelkader Merah, sur son frère également, Romain Caillet?
Moi, je connais, enfin, j'ai pas eu les éléments de l'enquête pour pouvoir avoir un avis sur la culpabilité ou pas d'Abdelkader Merah. En revanche, ce qui m'étonne dans le parcours de Mohamed Merah, d'ailleurs on le dit dans le livre, c'est que finalement, on se pose une question, une hypothèse. Est-ce que Mohamed Merah s'est-il fait passer pour un indique, pour tromper les services de renseignement français? Ce qui expliquerait finalement qu'il puisse aller au Pakistan et en Afghanistan et revenir sans être interpellé. Parce que quelqu'un qui est fiché S, même avant les attentats de 2015, qui va en Afghanistan, qui va au Pakistan, surtout avec bon, le cadre familial qu'il avait, Toulouse, etc., qui revient sans être inquiété, pour moi, ça n'existe pas.
Ça veut dire quoi, ça n'existe pas?
Ça veut dire que c'est pas possible. Je veux dire que clairement, on peut se demander s'il n'a pas fait croire au service de renseignement qu'il avait travaillé pour eux, et être en faisant l'indique, et se servir de ça pour avoir une impunité, pour pouvoir partir en Afghanistan et au Pakistan fréquenter des camps d'entraînement. Il y a un précédent beaucoup plus important et qui pourrait être un scénario hollywoodien, c'est l'histoire d'Abdou Janal Khorasani. C'était un djihadiste jordanien qui écrivait sur les forums djihadistes. Il va se faire arrêter par la police jordanienne et ils vont lui dire « Infiltre pour nous Al-Qaïda Waziristan ». Et lui dit « D'accord ». Donc il les infiltre. Et il révèle tout évidemment à Al-Qaïda quand il est sur le terrain et aux talibans pakistanais qui lui disent « Bon bah, tu vas continuer à leur donner des informations
». Il leur donne des informations bidons ?
Vrai ? Non, vrai. Je sais plus, je crois que c'est le juge Trévidic qui avait dit ça, que même il y a un chef djihadiste qui est blessé, qui va accepter de se faire droner volontairement pour crédibiliser les informations qui remontent. Mais en tout cas, moi j'avais vu la vidéo après coup d'Abdou Janal Khorasani qui avait été diffusée, ils avaient dit on a donné des informations aux Américains qu'on pensait qu'ils avaient déjà. Toujours est-il, il va leur dire, ça y est, j'ai trouvé Zawahiri, je sais où il est, on va organiser un rendez-vous. À ce moment-là, il y a 7 agents du FBI, de la CIA qui arrivent, et le maître espion jordanien qui l'a recruté, et à ce moment-là, il se fait exploser et il tue 7 des plus grands agents de la CIA chargés de traquer les terroristes. Donc, le Mohamed Merah qui manipule plus ou moins les services de renseignement, ça paraît surprenant, mais moins surprenant que l'histoire d'Abdou Janal Khorasani qui est vraie. Bon.
Donc, il y a une possibilité qu'il ait joué un double jeu selon vous. Est-ce que ça signifie que les services de renseignement n'ont rien compris à la réalité du djihadisme, pour le cas en tout cas de Mohamed Merah?
Non, je dirais pas ça, mais si vous voulez, après le 11 septembre, on voyait beaucoup sur les plateaux de télévision, certains ponts des services de renseignement, dire nous, les Français, on a un savoir-faire, on a des sources humaines. Et ben, après l'affaire Merah, il y a eu une crise de confiance dans les services au niveau des sources humaines. Donc, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Je pense qu'on le saura dans plusieurs années. Il y a un deuxième point sur lequel on peut rebondir sur l'affaire Merah, c'est que dans la façon dont Mohamed Merah, il décrit son parcours, on a les enregistrements. Il dit en fait que il trouve dans un camp, par hasard, un francophone, Garsalawi. Et nous, on explique dans le livre que ce Garsalawi, il était accessible sur un forum français. Donc, est-ce que Mohamed Merah, il a pu le joindre avant son séjour via ce forum? Ça, c'est aussi une question auquel on n'a pas de réponse.
Mais alors, pourquoi dit-il qu'il l'a rencontré par hasard?
Tout simplement pour mentir. Il peut très bien avoir menti caché en tout cas certains éléments.
Ça ferait partie de sa stratégie de manipulation selon vous?
De toute façon, il y a quelque chose qui m'a un peu frappé, c'est que il y a un policier maghrébin qui parle avec Mohamed Merah dans l'enregistrement qu'on a. Et à ce moment-là, Mohamed Merah lui dit Al-Harb Khuza'a. Tu dis, tu sais ce que ça veut dire? Le policier maintenant lui développe. Et Mohamed Merah lui répond, la guerre est une ruse. Ça veut tout dire.
Ça veut dire aussi qu'il y a probablement beaucoup de choses que nous n'avons pas encore compris sur le discours d'Abdelkader Merah, puisque lui se présente comme étant un croyant infidèle, mais bien entendu, il dit qu'il n'a rien fait pour endoctriner son frère, alors qu'on voit que la sphère familiale des Merah était quand même extrêmement particulière, Romain Caillet.
Écoutez, il y a deux choses. Comme je vous dis, je connais pas les détails de l'enquête et des interrogatoires des Merah, mais s'il a, on peut pas nier qu'il ait contribué à la radicalisation de Mohamed Merah. Maintenant, c'est pas parce qu'il a contribué à sa radicalisation que forcément c'est, il a défini avec lui les objectifs. Sinon, dans ce cas-là, dans toutes les affaires de terrorisme, on va mettre perpétuité à tous les prédicateurs qui ont joué un rôle dans le parcours de tel ou tel djihadiste.
Vous-même, vous êtes ou vous avez été fiché S. On a appris cela parce que vous étiez collaborateur de la chaîne BFM et celle-ci a choisi de se séparer de vous. Est-ce que ça signifie que vous avez été vous-même djihadiste, Romain Caillet?
Alors, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai été proche de cette mouvance. J'avais un pied dans ce mouvement sans en faire vraiment partie. D'ailleurs, eux-mêmes ne me considéraient pas complètement comme un des leurs. Néanmoins, oui, pendant quelques années, j'ai été proche de cette mouvance avant de m'en distancier. J'ai gardé des contacts dans cette mouvance qui me servent pour ce livre qui a été écrit. Mais aussi, en partie, il y a certaines sources ne sont pas mentionnées dans le livre, par exemple sécurité, mais il y a certaines informations qui sont en fait des mémoires, notamment le chapitre sur l'Égypte. Il y a un certain nombre d'événements où j'étais présent.
Puisque vous avez vécu au Caire.
Voilà. Et puis, le reste des éléments qui sont mobilisés dans ce livre, c'est le gros travail d'investigation qui a été fait par Pierre Puchot, qui a ramené beaucoup, beaucoup de sources judiciaires qui nous permettent, en fait, de recouper certaines informations que j'avais ou qu'on m'avait dit, un certain nombre d'anecdotes, des gens qui étaient sortis de garde à vue, qui m'avaient dit il y a telle ou telle chose qui se sont passées dans cette garde à vue, il y a telle ou telle chose qui ont été discutées. Eh bien, avec les éléments ramenés par Pierre Puchot, on a pu vérifier ces informations et les recouper.
Qu'est-ce qui vous séduisait à l'époque dans le djihadisme, Romain Caillet?
Moi, essentiellement, ce qui à la fois me séduisait et ce qui m'en séparait, ce qui me séduisait, c'est surtout, par exemple, je ne voyais pas d'autres réponses par rapport aux dictatures qu'il y avait dans le monde arabe, mais je n'ai jamais été en accord avec la guerre menée contre l'Occident.
Vous êtes vous-même un converti, ce qui signifie que vous avez suivi également un cheminement spirituel.
Oui, mais là, bon, après, je veux dire que je fais la part des choses. Bon, c'est pas tous les convertis qui deviennent islamistes, c'est pas tous les islamistes qui deviennent salafistes, et ce ne sont pas tous les salafistes qui deviennent djihadistes.
Mais, bien entendu, il n'y a aucun lien mécanique entre ces différents stades. Est-ce que le salafisme, par exemple, dont vous étiez proche?
Oui, absolument. Non, mais j'assume que j'ai eu un moment, un pied dans cette mouvance. Après, effectivement, il y a eu dans la presse un certain nombre. J'ai été non pas mis en examen, mais questionné dans une garde à vue. Il y a un certain nombre d'éléments sortis de leur contexte qui ont été mis dans la presse. Moi, à l'époque, justement, comme j'avais pas été mis en examen, j'avais pas accès au dossier, donc je savais bien que les éléments les propos qu'on me prêtait étaient sortis de leur contexte et détournés. Peut-être par incompétence, par malveillance, je ne sais pas. En tout cas, je n'avais pas le moyen de le prouver. Là maintenant, à travers nos investigations, j'ai eu accès au dossier de mes auditions et je peux vous dire que bon, un certain nombre d'éléments de propos qui m'ont été prêtés, qui sont clairement sortis de leur contexte, avec des phrases qui ont été retirées.
Moi, si vous voulez, ce qui m'intéresse au travers donc de vos connaissances impressionnantes sur cette question, de vos connaissances de terrain également, Romain Caillet, puisque vous ne travaillez pas seulement sur des sources de seconde main, c'est qu'est-ce qui fait qu'un homme comme Mohamed Merah verse dans la barbarie, tandis que vous, par exemple, qui aurez pu, vous aussi, suivre ce chemin, vous en êtes bien gardé.
Et puis même, au-delà, même dans la mouvance djihadiste, il n'y a pas eu d'unanimité sur les actes de Mohamed Merah.
Si, par exemple, c'est-à-dire
C'est-à-dire que, par exemple, tuer les soldats, ça, il y a eu unanimité de tous les djihadistes, ils étaient contents. Mais le fait, par exemple, de tuer des enfants, dont certains à bout portant, ça, il y a eu quand même... Il n'y a pas eu de débat sur les forums, encore que si, j'ai vu des gens qui écrivaient sur les forums qui n'étaient pas d'accord avec ça, mais il y a un certain nombre de djihadistes qui...
Des forums djihadistes, hein, je précise.
Oui, des forums, mais même, bon, il y a quand même pas mal de djihadistes qui ont été un peu choqués par cet acte. Alors il faut dire qu'à cette époque, la grande majorité, l'écrasante majorité des sympathisants du courant djihadiste n'avaient pas combattu. Ceux qui ont été en Syrie, effectivement, soutiennent tous les actes de Mohamed Merah, mais encore... Je dis que sur un sur 10 sympathisants du courant djihadiste, il y en a un qui part en Syrie. Donc, mais ceux qui sont partis en Syrie sont vraiment les plus radicaux et eux, par contre, sont unanimes à soutenir tous les actes de Mohamed Merah. Donc, non seulement le fait de tuer des soldats français, mais aussi des enfants parfois à bout portant.
Mais vous le rappelez pourtant dans votre livre Une histoire du djihad en France, Romain Caillé, il y a un statut pour les non-musulmans en terre d'islam, le statut d'Edimi. Alors comment est justifiée la politique qui a été menée par l'État islamique, où il s'agissait d'éradiquer tous ceux qui n'étaient pas musulmans et même tous ceux qui n'étaient pas considérés par cet État islamique comme de bons musulmans?
En fait, pour les djihadistes et au-delà, dans une vision littéraliste des textes de la tradition musulmane, les seuls ennemis, ce sont les juifs ou les chrétiens. Donc c'est-à-dire que, par exemple, les yazidis n'ont pas le droit à ce statut. Les chiites n'ont pas le droit à ce statut. Et les musulmans sunnites qu'ils ont excommuniés, donc ne sont plus musulmans, n'ont pas le droit à ce statut. Donc le statut d'ennemi, bah oui, il n'y avait pas de juifs sur le territoire de l'État islamique, donc il a été juste donné à des chrétiens.
Alors les chrétiens, il y a des chrétiens qui ont eu la vie.
Les chrétiens de Mossoul sont tous partis. En revanche, une partie des chrétiens de Raqqa sont restés et ont vécu sous le statut de Dhimmi. Il y a même eu des vidéos de propagande de l'État islamique où ils montraient des chrétiens qui avaient le statut de Dhimmi et qui répondaient aux questions, donc sous le contrôle des djihadistes.
Dans votre livre, vous dressez une histoire du djihad en France et j'aimerais que nous revenions quelques années en arrière, en 1995, puisque le djihad en France, il a eu un premier visage, c'était celui de Khaled Kelkal. Souvenez-vous, c'était en 1995.
Madame, monsieur, bonjour. C'est donc bien Khaled Kelkal, recherché par toutes les polices françaises, qui a été abattu hier soir au-dessus de Lyon, dans les monts du Lyonnais, très exactement, par une patrouille de la gendarmerie et de la police, renseignée par les habitants de la région.
Il est à peine plus de 20 heures, les hommes de l'escadron parachutiste viennent d'abattre en pleine rue Khaled Kelkal. La cavale de l'homme le plus recherché de France vient tout juste de se terminer devant un arrêt de bus en plein village de Vaugneray.
Alors il faut que vous nous rafraîchissiez la mémoire, Romain Caillé, qui était Khaled Kelkal. En quoi il y a une continuité entre les actes qu'il a commis pour le GIA et ce qui suit jusqu'à aujourd'hui? C'est un homme qu'on connaît bien, Khaled Kelkal, parce qu'il s'est entretenu avec un sociologue allemand et donc on sait assez bien finalement quelle était sa vision de la société et de la réalité. Donc par rapport à cela, Romain Caillé, qu'est-ce qui peut être présenté chez cet homme comme étant finalement à l'origine du phénomène que l'on voit se déployer?
En fait, il n'est pas vraiment représentatif de a posteriori, je veux dire plus tard, parce que c'était un des premiers, donc, mais il n'est pas vraiment représentatif de la plupart des djihadistes qui commettent des attentats. Je m'explique. Les sympathisants de l'État islamique, on en trouve dans tous les milieux, de toutes origines. Les gens qui partent en Syrie, on en trouve dans tous les milieux et de toutes les origines. En revanche, ceux qui commettent des attentats, en particulier ces dernières années, ont quasiment tous le même profil. C'est-à-dire, c'est des jeunes issus de l'immigration qui ont un lourd passé délinquant. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est plus simple de se procurer des armes pour commettre un attentat quand on vient de la délinquance, qu'on connaît ce milieu, on sait où se procurer des armes, on connaît les codes de ces milieux qui permettent de se fondre dans le moule et de ne pas attirer l'attention. Le journal Dar el-Islam, le magazine en langue française de l'État islamique, il disait « Faites-vous passer pour un jeune qui prépare un coup ». Pour récupérer des armes, pour éviter évidemment que le trafiquant d'armes ne se retrouve dans la situation de l'ami de Mohamed Merah, là, qui pourrait être condamné à 20 ans de prison. Rachid Kassim, donc qui était un des Français qui téléguidait des jeunes à commettre des attentats, disait dans certains de ses audios qui étaient diffusés sur Telegram, si vous êtes à Marseille, rasez-vous la barbe. Même les Tchétchènes ne sont pas assez fous pour vendre des armes aux barbus. Et puis enfin, quand on est en dehors de ceux qui sont sortis de camps d'entraînement djihadistes et des anciens militaires, les seuls djihadistes, sympathisants djihadistes qui ont une expérience des armes, bien, ce sont les voyous. Sid Ahmed Glam, donc on ne sait pas s'il a tiré, s'est tiré une balle dans le pied avant ou après avoir tué la jeune fille, Aurélie Châtelain, je crois. Mais c'est un jeune Algérien de bonne famille, donc rien à voir avec la délinquance. Il a une arme entre les mains, donc il panique, et il finit, il se tire une balle dans le pied, et il met pas son projet à exécution. Mohamed Merah, il sera volé un scooter et tiré malheureusement avec précision.
Oui, c'est effectivement chez lui une action qui a été menée jusqu'à son terme. Et y a-t-il quand même malgré tout des points communs ? Vous dites que Khaled Kelkal n'est pas représentatif. Il y a au moins quelque chose qui est représentatif dans la manière dont il s'exprime, puisque encore une fois, on a une interview assez longue de lui quelques mois avant qu'il ne passe à l'acte. Et donc, il y a un point qui est particulièrement flagrant, c'est qu'il est moins représentatif d'une humiliation, puisque Khaled Kelkal, c'était un bon élève, donc il a réussi à rentrer dans un lycée, il était parfaitement intégré de ce point de vue-là à ce lycée, il n'y avait pas de souci. Simplement, lui se sentait différent des autres élèves, et il considérait, disait-il dans cette interview, que c'était des fils de riches. Et on voit finalement beaucoup de ressentiment et une manière de porter une frustration qu'il n'avait pas lui-même ressenti. Est-ce que ça n'est pas ça l'un des points communs qu'il y a entre Khaled Kelkal, Mohamed Merah, Jamel Begal, dont on pourrait également parler, qui a été le mentor, je crois, de Khaled Kelkal?
Non, vient du GIA, Jamel Begal, mais c'est le mentor des Kouachi. Même si lui-même récuse ce terme, clairement. Et il était proche d'Amédi Koulibaly. Mais effectivement, une des problématiques de cet ouvrage, c'est de montrer que finalement, moins les attentats de 2017, mais les attentats extrêmement meurtriers qu'il y a eu entre 2015 et 2016, ils sont le résultat de la rencontre de deux choses. Une haine envers un certain nombre de jeunes, envers la société française et envers la France, et envers les Français. Et de l'autre, une organisation djihadiste avec des moyens tentaculaires qui a décidé de placer sur son agenda la France, terroriste, la France. S'il n'y avait pas eu la rencontre de ces deux choses, les attentats auraient été moins dévastateurs. Pourquoi ? Parce que si l'État islamique n'avait pas appelé à frapper la France, certainement que des djihadistes français aguerris seraient revenus, à un moment quitté l'organisation, et seraient revenus en France et auraient commis des attentats. Mais Mohamed Merah, on dit toujours l'État islamique revendique tout et n'importe quoi. Un, l'État islamique n'a jamais revendiqué les attentats de Mohamed Merah. Deux, celui-ci s'est plaint de ne pas avoir reçu de soutien financier quand il opérait en France. Même s'il est en France et en Belgique, puisqu'il a frappé en Belgique, comme vous le savez. Mais toujours est-il que là, il n'y a pas un soutien déterminant d'État islamique, l'attentat est limité. Soutien ou appel à propagande, puisque après, tous les attentats qui sont commis, y compris à Nice, ça s'inscrit dans une logique d'appel continuel et perpétuel et systématique de l'État islamique à commettre des attentats. Donc, cette rage, cette haine, cette haine envers la France d'un certain nombre de djihadistes, elle a rencontré les objectifs d'une organisation djihadiste. Et de l'autre, si l'État islamique préférait frapper les États-Unis que la France. Hein. La France, c'est quoi ? C'est 5% des frappes de la coalition. Donc, simplement, ce qui manque à l'État islamique pour pouvoir frapper la France, c'est un terreau suffisamment important de sympathisants. On l'a vu hier soir, ils existent aussi, mais ils sont nettement moins nombreux qu'en France, et surtout, ce sentiment de haine, il va au-delà de la mouvance djihadiste. La communauté musulmane aux États-Unis, elle est beaucoup plus intégrée, elle a beaucoup mieux réussi professionnellement, et elle est donc moins tentée d'avoir une certaine hostilité envers les États-Unis.
Mais vous pensez vraiment que c'est le cas, ou en tout cas que c'est l'explication? Parce que la frustration sociale, encore une fois, chez Khaled Khelkhal, par exemple, c'était une frustration que je pourrais qualifier de factice, puisqu'il n'avait objectivement pas de raison de se considérer comme frustré socialement. Sur le plan scolaire, il avait eu une chance. Koulibaly, c'est le même type de trajet. On voit quelqu'un qui n'avait certes pas un trajet scolaire exemplaire, mais enfin qui avait un travail, qui était intégré dans la société, et le fait pour lui de se transformer en tueur témoigne avant tout d'une haine incompréhensible de son pays, puisque la France était son pays. Je crois que Khelkhal était né en Algérie, à Mostaganem, si mes souvenirs sont bons.
Il faut être prudent. Mais cette hostilité envers la France, elle ne s'explique pas forcément par un échec. Des gens qui ont très bien réussi, mais par un discours familial ressassant la période coloniale, par peut-être, pour certains qui ont réussi, la sensation d'être arrivé à un plafond de verre indépassable et que de toute façon ils ne pourraient pas aller plus loin, peut se nourrir une haine de la France. C'est pas forcément les plus miséreux et les entre guillemets, comme disent les jeunes, les cassos qui sont les plus haineux envers la France. Et aussi, il y a tout un tas de raisons qui font que voilà, ils peuvent avoir ressenti des humiliations personnelles dans leur vie privée qui seraient selon eux liées à leurs conditions de jeunes issus de l'immigration. Qui expliquerait cette haine. C'est quelque chose d'assez complexe qui ne se résume pas uniquement par l'accès professionnel.
J'entends bien, mais tout est dans le selon eux que vous avez prononcé, c'est-à-dire tout est dans la manière dont un individu va considérer que ce qui lui arrive est ou non la faute de la France. Et en tout cas, on voit que par exemple, dans le commando qui a frappé les terrasses parisiennes, où il s'agissait finalement de frapper des jeunes qui avaient le même âge qu'eux, qui étaient en réalité de la même du même pays, de la même patrie, il faut accumuler quand même une haine terrible pour en arriver à ce point-là.
Oui, absolument. Alors après, comme je disais, comme je dis parfois, même si on était dans une société idéale où tout le monde est heureux, qu'il n'y a pas de discrimination, etc., il y a quand même un certain nombre de gens qui, d'une manière ou d'une autre, auraient un sentiment de solidarité avec des gens qui sont bombardés par un pays occidental. Là, c'était des gens qui revenaient de terre de djihad, donc bon, qui avaient vu des bombes, des bombardements, et pour eux, bon, c'était une continuité de leur djihad qui menait sur place.
Mais vous y croyez vraiment à cette thèse? Parce que l'idée selon laquelle finalement le djihadisme en France serait la conséquence de la politique que mène la France, est-ce que c'est vraiment ça? Parce que au final, il y a par exemple aussi la question du voile, qui avait déjà fait considérer que la France était une cible parce que pays laïque. Bref, est-ce que véritablement on a là la conséquence de la politique extérieure, ou est-ce que de toute façon la France aurait été une cible selon vous, Romain Caillet?
Je ne pense pas que la loi sur le voile soit une des raisons qui vont motiver des djihadistes à perpétrer un attentat. En revanche, c'est une des raisons qui fait que des djihadistes ont la haine envers la France, ça c'est sûr. Mais la justification de commettre un attentat, ça arrive vraiment en fin de liste, la loi sur le voile. C'est vrai que ça fait partie des rancœurs qu'on est djihadiste envers la France, la loi sur le voile à l'école, l'interdiction du niqab dans l'espace public, la colonisation en fin de liste. Et puis bon, après, si on remonte les croisades, mais clairement, Koulibaly, quand il s'exprime, il dit « Vous êtes à quel califat? On vous attaque ». C'est aussi simple que ça. Les djihadistes, les assaillants du 13 novembre, les témoignages qu'on a des victimes, c'était de dire « Oui, c'est la faute de votre président ». Il mettait en cause la politique française.
Mais est-ce que tout ça, ce ne sont pas des recompositions a posteriori? Parce que lorsqu'on parle des croisades pour justifier une attaque aujourd'hui...
Non, j'ai dit que c'est arrivé en fin de liste.
Non, j'ai pas dit que c'était ce que vous considériez comme étant...
Non, dans leur discours. Ah non, mais moi j'ai dit, dans leur discours, ça arrive en fin de liste. C'est-à-dire que, par exemple, on cite Rachid Kassim dans un enregistrement sur Telegram qui dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de colonisation, etc. Pour nous, c'est secondaire, si on attaque la France, c'est parce qu'elle nous bombarde. » Bon, mais c'est vrai que ça arrive quand même parfois, c'est cité parmi les djihadistes, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment en fin de liste. Donc, si on parle à la colonisation, pourquoi pas revenir jusqu'aux croisades? Mais c'est vraiment des éléments importance secondaire. Ils mettent en avant la géopolitique, mais auparavant, en amont, il y a quand même une haine de la société qui, effectivement, peut parfois être motivée par des raisons liées à l'islamophobie ou tout simplement à la politique intérieure française et les décisions qui sont d'ailleurs approuvées par l'opinion publique.
En guise de conclusion, Romain Caillet, il y a aujourd'hui la fin de l'état d'urgence avec sa transformation. Est-ce que vous pensez que la France lutte efficacement contre les djihadistes ? Est-ce qu'il y a des choses que l'on pourrait faire que l'on ne fait pas ? Est-ce qu'il y a au contraire des choses que l'on fait qui sont inutiles ?
Alors moi, ma spécialité, c'est donc de parler de l'histoire, de travailler sur la communication de l'organisation. Je suis pas un expert de la lutte antiterroriste.
Non, mais tout à l'heure, vous avez dit que Mohamed Merah avait trompé les services de renseignement français.
Non, c'est une hypothèse.
Peut-être. Mais aujourd'hui, est-ce que d'après vous, la France mène la bonne politique ?
Non, mais j'ai jamais dit que les services français n'étaient pas compétents.
J'entends bien Romain Caillet, mais enfin, vous avez formulé une hypothèse. Peut-être que cette hypothèse est fausse. Vous l'avez formulée en prenant toutes les précautions.
Si j'ai parlé de cet exemple me parle, Mohamed Merah, c'est parce que je sais ce que c'est qu'avoir une fiche S. Je sais ce que c'est que circuler dans des aéroports avec une fiche S. Et alors, j'imagine ce que c'est quand de revenir d'Afghanistan et du Pakistan avec une fiche S.
Aujourd'hui, est-ce que la France mène la bonne politique contre les djihadistes ?
Ce qu'il y a, c'est que de manière générale, les États-Unis ont mieux réussi leur guerre contre les djihadistes, contre l'État islamique, que la France. Parce que les Américains n'ont pas envoyé de soldats au sol, ou très peu. Je crois qu'il y a eu moins de 10 morts en Syrie, 10 morts américains. Ont réussi donc à quasiment reprendre tous les territoires de l'État islamique, tandis que la France a représenté 5% seulement des frappes contre l'État islamique, mais qui ont provoqué en retour des attentats dévastateurs qui ont fait près de 200 morts entre 2015 et 2016.
Romain Caillet, le livre que vous publiez avec Pierre Puchot, Le combat vous a été prescrit, une histoire du djihad en France aux éditions Stock, avec énormément de renseignements et d'études très précises autour de cette question.